bonjour à tous. Donc, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Merci d'être là également. Donc, on est dans la série « L'Église, une famille ». Et ce matin, je voudrais faire un petit retour un petit peu sur la famille, un peu. Donc, on se souvient le verset thème, donc Éphésiens 2, 19. Donc, on peut le lire ensemble. Donc, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Tout qu'un privilège, n'est-ce pas? Hein? Nous sommes plus des gens du dehors, plus des étrangers. Même ceux qui viennent de l'extérieur, vous n'êtes pas des étrangers ici. Donc, c'est le fun, c'est ça. Et ça, les gens du dehors, le cœur humain a cette tendance-là à vouloir faire partie de quelque chose. Et nous sommes partie de la plus merveilleuse chose qu'il peut y avoir, c'est de la famille de Dieu. Donc, c'est vraiment un privilège. Et on sait que la famille de Dieu, ça vient avec une nouvelle identité, un nouvel héritage, une nouvelle... Peut-être que je devrais... Ah, je vais le voir comme ça, ça va être mieux. Là. Une nouvelle liberté et une nouvelle intimité, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce? Mais qui dit famille dit relation, n'est-ce pas? Donc, dans les familles, il y a des relations. Et souvent, ces relations ne sont pas toujours faciles. Donc, vous le savez, donc on le sait tous, donc... Et la famille de l'Église n'y fait pas exception non plus. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, bien, on ne devient pas parfait là, par un coup de baguette magique. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un processus. Hein. Il est nécessaire d'apprendre à vivre en accord avec notre nouvelle identité que Christ nous a donnée. Et tendre justement vers cette perfection. Donc, mon but aujourd'hui, c'est plus une introduction pour répondre à la question suivante. Comment faire pour avoir des relations plus saines et harmonieuses les uns avec les autres au sein de notre Église? C'est quelque chose, hein? Donc, c'est un bon contrat. Donc, si vous voulez bien, on va remettre ce temps-là dans les mains de Dieu. Oh oui, Père Céleste, merci du privilège que nous avons d'être... tes enfants, Seigneur, d'avoir été adoptés et de faire partie de ta famille, Seigneur. Oui, quel privilège nous avons, Seigneur, d'être appelés tes enfants, Seigneur. Et on veut vraiment, à travers ça, grandir dans nos relations, premièrement, avec toi, mais également avec les uns les autres, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies et que tu puisses vraiment... Nous bénir ce matin, Seigneur, par ta parole, par tout ce que tu as fait dans cette Église et qu'on puisse savoir, on puisse te rendre toute la gloire qui t'est due pour la gloire de ton nom que je te prie. Amen. Donc, j'ai jugé utile de retracer brièvement un petit historique de notre Église à Saint-Félicien afin de se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait, mais aussi pour... Il y a plein de nouveaux qui viennent... dans notre Église dernièrement, et j'ai cru bon que ça serait peut-être bon qu'ils puissent comprendre notre cheminement d'Église que nous avons eu. Donc, ça va être... Et pour comprendre où est-ce qu'on en est rendu aujourd'hui, depuis les débuts quand même assez récents, là, parce que l'Église quand même, c'est depuis 1970, donc... Mais on va commencer pas en 70, là, donc... On va commencer un petit peu à 2014. Donc, en 2014, le conseil était en retraite au camp Patmos, donc le camp que mon frère parlait. Donc, et le Saint-Esprit nous a révélé quelque chose, révélé que quelque chose ne fonctionnait pas au niveau de notre Église et de nos relations. Et après cette prise de conscience, nous voulions que ça change. Et il y a comme une phrase qui est surgie. Nous voulions, je ne sais pas si Nox s'en souvienne, passer d'une culture de performance à une culture de relation. Et ça, ça a été vraiment notre but en tant que conseil à cette époque-là. Oui, on voulait vraiment passer d'une culture de performance à une culture de relation. Mais c'est quoi, c'est une culture de performance et une culture de relation? Eh bien, je vais vous les définir. Donc, une culture de performance tend à mettre l'accent sur les résultats, ce qu'il faut faire. La performance aussi peut faire beaucoup de tort dans nos relations, en mettant de la pression afin que des personnes fassent les bonnes choses. Et insidieusement, on peut faire les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Exemple, lire la Bible parce qu'on est obligé de la lire, parce que sans ça, on part, on se fait juger, on n'est pas un bon chrétien, il faut au moins lire sa Bible en un an. Là, on met de la pression, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important de lire la Bible, mais est-ce que c'est nécessaire de le faire dans un an? On peut le faire dans un an, puis de façon très mécanique, puis rien retenir aussi. Donc, et on met la pression sur les personnes pour que se conforment à un comportement extérieur, mais le cœur n'y est pas. Et on a réalisé en tant que conseil que souvent on était tombé dans ce panneau-là. On mettait des fardeaux sur les personnes. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Et je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut. La culture de performance, quant à elle, est plutôt axée sur l'être, la personne, ce qu'elle est et non ce qu'elle fait. Et ce qui est important, ce sont nos interactions humaines, la collaboration. Et à quoi ça ressemble, pratico-pratique? Eh bien, plutôt que de lire la Bible parce qu'on se sent obligé, comme dans la performance, on lit la Bible pour rencontrer Dieu, pour être avec Dieu, pour cultiver notre intimité avec Dieu, notre relation avec Dieu. Et une culture de relation, ce n'est pas en contradiction avec la Bible, car Dieu, c'est un Dieu de relation. Première des choses, il est en relation au sein de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et c'est une relation qui est parfaite. On n'atteindra pas ça ici, bas sur la terre, mais au ciel, on va être en communion parfaite avec Dieu lorsqu'on va être changé grâce à lui. Et à travers toute la Bible, on voit que Dieu veut être en relation avec tous les êtres humains. Il veut également aussi que ses enfants soient en relation les uns avec les autres. Donc, et c'est ça qu'on a réalisé, que oui, c'est biblique, vouloir vivre être en relation les uns avec les autres, et c'est ça que Dieu veut aussi. Et à la suite de cette retraite, nous avons recherché la face de Dieu, parce qu'on voulait savoir quelle était la mission que Dieu voulait pour l'Église. Donc, c'est la question qu'on s'est posée. Quelle est la mission que Dieu avait pour l'Église ici à Saint-Félicien? Et puisqu'on voulait faire la mission de Dieu et non notre propre mission, bien, nous sommes dit qu'il faudrait peut-être aller voir dans la Bible qu'est-ce que Jésus en pense. Hein? Ça serait une bonne idée. Hein? Eh bien, on était dans Matthieu 28, 19 à 20. Donc, vous pouvez tourner si vous voulez, mais si vous l'avez, je l'ai pareil sur le PowerPoint. Donc, ça va comme suit, Matthieu 28, 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, qu'est-ce que Jésus nous demande ici? Faire des disciples. Donc, et il nous demande de les baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de les enseigner aussi à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, il y a une belle promesse. Il dit qu'il allait être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, juste une petite observation ici. Il ne nous est pas demandé ici de faire des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Hein? Pourquoi? Selon ce que notre frère nous a appris les semaines précédentes, pourquoi il ne nous a pas demandé de faire des enfants de Dieu? parce que c'est Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Il nous adopte dans sa famille. OK? Donc, très important de bien comprendre ça. On n'a pas à faire des enfants de Dieu, parce qu'on ne serait pas capable de toute façon. Déjà, de faire des disciples, ce n'est pas évident. Donc, ça prend la grâce de Dieu encore. Donc, tout est une question de dépendance avec Dieu, de toute façon. Donc, si on revient à notre sujet, donc nous sommes appelés à faire des disciples. Et pour accomplir cette mission, bien, il faut savoir c'est quoi un disciple, si on veut, hein, n'est-ce pas? Ça va de soi. Et c'est pourquoi nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'un disciple? Et nous avons fait une déclaration de disciple. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Donc, notre déclaration de disciple. Donc, on va la regarder ensemble. Donc, ça commence comme suit. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Donc, on l'a mis au « je » pour qu'on puisse se l'approprier pour nous. Parce que c'est important. Donc, ça se poursuit comme ceci. J'ai été choisi, appelé et aimé par lui d'un amour éternel. Par la foi en l'Évangile, j'ai été réconcilié avec mon Père. En effet, par sa mort pour moi sur la croix, Jésus a pris mon péché sur lui et a mis sa justice sur moi. Je suis maintenant accueilli par Dieu dans sa famille comme un enfant adopté. Sa faveur repose sur moi et je jouis de son acceptation inconditionnelle. C'est quelque chose. Juste là, là. Donc, de tout réaliser ça. Et ça vient de Dieu. Hein? Je chemine dans cette relation de confiance avec un Dieu qui me chérit et qui veut guérir et prendre soin de mon cœur. Donc, Dieu s'intéresse à nous. Il veut prendre soin de notre cœur. Plus j'accueille son amour pour moi, plus je l'aime et plus je me détourne de tout ce qui est contraire à sa volonté. Par sa parole, il m'éclaire et par son esprit, la vie de Jésus coule en moi et me transforme. Et ce n'est pas fini. C'est cette vie qui produit en moi une ressemblance grandissante à Jésus, dans mes attitudes et dans mes relations avec les autres. De tout cœur, je désire aimer comme j'ai été aimé, accueillir comme j'ai été accueilli, parce qu'on a été accueilli par Dieu, on a été aimé par Dieu. Okay? Je veux être pour les autres ce que Jésus a été pour moi. C'est pourquoi je me joins à une communauté de gens qui, tout comme moi, désirent démontrer la compassion de Jésus envers un monde brisé et annoncer cette bonne nouvelle qui transforme nos vies. Donc, c'est ça notre déclaration de disciple. Et si on veut la faire de façon plus résumée, donc de façon plus générale, moins personnelle, donc un ou une disciple de Jésus est une personne qui a reconnu ses péchés et accepté par la foi le sacrifice de Jésus-Christ pour être pardonné de ceux-ci et qui chemine dans son intimité de plus en plus grande avec Dieu et avec ses frères et sœurs dans la foi. Donc ça, c'est un petit résumé qui est plus accessible, là, si on peut dire. Okay. Mais cette déclaration de disciple ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ça a débuté en 2015 et ça s'est terminé en 2017. Vous pouvez peut-être trouver que c'est long, juste pour une définition de disciple. Mais il y a quelqu'un qui a déjà dit que si tu veux une citrouille, ça prend une saison. Mais si tu veux un chêne, ça prend une vie. Donc, nous, on veut quelque chose qui va être solide dans le temps. Non, parce qu'une citrouille, ça dure juste une saison. Et puisque la mission de faire des disciples s'adresse à toute l'Église, nous voulions impliquer tout le monde. On ne voulait pas que ça reste le but du conseil seulement. Et pour faire ça, on s'est joint à un ministère de notre association qui est le processus vitalité. Donc, qu'est-ce que c'est le processus vitalité? Eh bien, j'ai une petite vidéo. Donc, peut-être Jonathan. Donc, il faut que je change la source, là. Hein? Donc, la vidéo. donc, qui nous parle de qu'est-ce que le processus vitalité. Donc, tu peux le mettre grand écran, je pense.
Que je suis dans le ministère pastoral. Mon parcours a commencé un peu à travers un service d'aumônier pendant 5 ans. Et le Seigneur m'a mis à cœur d'aimer son Église et pas juste aimer la mission, une partie de la mission. Alors, j'ai cheminé 4 ans ensuite dans une équipe pastorale, dans une plus grosse église. Et ensuite, pour les 11 dernières années, j'ai cheminé dans une église comme pasteur principal en région. Mon cœur a grandi avec le fardeau de dire « J'aimerais voir l'Église vivre en paix, mais j'aimerais voir aussi l'Église être mobilisée dans sa mission puis aider l'Église à surmonter les obstacles qui font que l'Église, souvent, elle va stagner, elle va perdre de vue sa mission. Ou parfois, une partie de l'Église est en mission, mais elle n'arrive pas à se mobiliser parce qu'il y a une autre partie de l'Église qui a perdu de vue sa mission. » Et ce désir-là m'a amené à accepter un appel à temps plein pour collaborer avec l'association ici, mais entre autres avec le rôle de diriger l'équipe Vitalité dans les prochaines années. La vitalité dans l'Église, ça commence avec un regard spirituel, la vie que Dieu dépose dans mon cœur. Ça se vit lorsque mon cœur est animé pour les priorités du royaume de Dieu. Mon cœur est animé de répondre à l'amour de Dieu que j'ai reçu. Alors, ça commence avec une vitalité spirituelle, moi, Dieu. Et comment est-ce qu'on peut le mesurer après ça? C'est le volet relationnel. Comment est-ce que je suis avec mes frères et sœurs dans l'Église? Et ça commence là, c'est pas mon prochain dans la rue, c'est mon prochain dans l'Église. Alors là, on va parler de vitalité relationnelle. Et je pense que ces deux volets-là nous aident à définir le portrait qui doit nous animer lorsqu'on parle de vitalité. Nous, lorsqu'on parle de revitalisation, de vitalité, notre réflexe, c'est de se dire comment est-ce qu'on va vivre ça, avec quoi. Mais le cœur de notre réflexion, lorsqu'on doit penser revitalisation, vitalité dans les églises, c'est pas comment puis par quoi, c'est qui produit la vitalité, puis cela implique qui. Et ces deux qui-là nous aident à vraiment venir au cœur des choses parce que c'est Christ qui produit la vitalité dans nos cœurs, ensuite dans nos relations. Et ça implique tout le monde. Ça implique pas juste des leaders qui vont bien diriger l'Église ou qui vont bien mobiliser l'Église ou qui vont bien diriger la vision, mission de l'Église, mais c'est tout le monde que ça implique parce que le corps, c'est tout le monde. Le parcours Vitalité, c'est un processus de réflexion, c'est un parcours de ralliement. Et c'est un parcours qui nous emmène à approfondir nos relations les uns avec les autres. On commence avec le spirituel puis le relationnel, puis on finit par la mobilisation de l'Église vers un nouveau projet. À chaque étape, c'est les fruits de Dieu qui dictent la prochaine étape. Et c'est même les fruits de Dieu qui vont dicter qui sommes-nous comme Église? Pourquoi est-ce que notre vocation missionnelle comme Église, ça va être un petit peu différente de notre Église sœur à côté. C'est parce que Dieu va avoir précisé des choses qui nous distinguent comme Église locale. Puis qui nous amènent qui se précisent parce que Dieu va nous montrer aussi dans quelle communauté il nous a placés. Qui nous sommes? Qui sont nos dons? Et tout d'un coup, à chaque fois, c'est le fruit de Dieu. C'est la rencontre avec Dieu qui va venir convaincre, solidifier, affermir qui nous sommes et comment, comme Église, accomplir notre mission. Mais l'équipe Vitalité, c'est premièrement, c'est pas Jean-Philippe, c'est toute une équipe de pasteurs ou d'anciens qui ont joint l'équipe avec ce même désir-là d'aider l'Église à cheminer pour devenir plus en santé, plus en mission. Alors, on a des coachs formés, on en a 4 présentement, qui vont être attitrés à une église qui veut faire le parcours et qui va aider l'église à rentrer dans ces questions-là. sommes-nous en santé, en mission? Et le rôle des coachs, c'est de poser les bonnes questions. C'est de montrer aux leaders comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour qu'on le fasse ensemble, cette réflexion-là. Ensemble, chercher la face de Dieu. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour impliquer tout le monde dans le processus? Une église qui est un des leaders qui voit cette vidéo et dit « Hey, ça m'intéresse, contactez-nous, on va venir vous rencontrer. On se déplace, on vient vous voir, on va vous accompagner dans chaque étape, on va répondre à vos questions. » Peut-être que vous avez besoin de ressources dans le travail d'équipe, juste au sein du conseil. On va vous aider au sein de votre conseil. On a différents outils adaptés pour vous aider dans votre prochaine saison de croissance à plusieurs niveaux.
Voyez-vous la direction de Dieu? On voulait une culture de relation et c'est de temps plein ce qui part. On a vraiment vu la main de Dieu, voir comment on voulait passer d'une culture de performance à une culture de relation. Et c'est exactement l'arrimage que Vitalité somme arrivé. Moi, ça me touche. Comment Dieu est bon. Ah oui, il faut que je change la source. Donc, le processus vitalité, donc la vidéo qu'on a vue. Donc, pour faire un petit résumé, donc, le parcours vitalité est un processus de réflexion, un cheminement d'approfondissement, de réconciliation et de ralliement qui a comme objectif de conduire les églises à connaître un renouveau dans leur dévouement à Jésus et dans leur engagement à accomplir la mission que Dieu nous a confié. Et on a passé par ce processus-là. On a fait un culte de consécration, vous en souvenez? Il y a des pardons qui ont été demandés dans l'Église. Et on s'est unis pour notre objectif commun qui était de faire des disciples. Et vous vous souvenez peut-être, on avait eu l'image d'un bateau. L'image du bateau qui n'avançait pas dans l'eau. Puis pourtant, il était neuf, on venait de l'acheter, il était neuf. Puis là, la personne qui avait été dans son bateau, il dit « Hey, votre bateau, il ne marche pas, il veut pas. » Et il est arrivé, là, il y a un plongeur qui regarde. Il s'est aperçu qu'il y avait le trailer encore en dessous de l'eau qui était accroché dans le bateau. Donc, des fois, il y a des choses, justement, qu'on doit regarder en profondeur dans nos cœurs, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans la mission? Et des fois, on a un gros trailer et c'est comme ça que Dieu veut changer ça, nous guérir à travers ces choses qui nous empêchent d'avancer. Donc, qu'on puisse vraiment faire la mission avec Dieu, faire la mission de Dieu. Et souvent, il faut faire attention, des fois, on peut avoir une mission, puis on dit, « Seigneur, viens nous aider dans la mission. » Non, non, c'est le contraire, c'est, « Seigneur, on veut embarquer dans ta mission. » C'est tout qu'un changement de paradigme. C'est nous qui allons dans la mission de Dieu, et non Dieu qui vient dans notre mission. Et là, ça change toute chose. Oh, c'est parce qu'on doit dépendre de Dieu. C'est ça qu'on a réalisé, qu'on devait dépendre du Saint-Esprit de Dieu pour sa direction, pour où est-ce qu'on voulait s'en aller. Et à travers le processus de vitalité, nous avons fait plein d'activités. Et une de ces activités-là était de rêver à quoi ressemblerait l'Église idéale de Saint-Félicien et la décrire. Et on a fait ça en petits groupes pour faire cette activité-là. Et il y a un groupe qui a été inspiré à faire un dessin de comment est-ce qu'il voyait l'Église idéale de Saint-Félicien, pour ceux qui s'en souviennent, ça ressemblait à ceci. Vous vous souvenez? C'est quoi qui vous saute aux yeux, là? Le cœur, la puissance de l'esprit, Christ qui est au centre, donc la croix. Donc, on voulait être au cœur de la communauté. On veut être présent, on veut être reconnu au sein de notre communauté, pas juste pour l'Église du toit rouge. Non, pour notre implication, pour faire du bien à la communauté. Parce que Jésus, il se promenait de ville en village, faisant le bien aussi. Et comme ça, parce qu'on s'est aperçu avec Étienne quand ils ont, que la société québécoise a peur du mot « Église ». Ils sont allergiques à ça. Donc, il faut regagner, il faut retisser, il faut refaire des ponts avec notre communauté. C'est un petit peu pour ça « J'aime mon voisin ». Ben, pas un petit peu, c'est pour ça « J'aime mon voisin », entre autres, de vouloir faire du bien à la communauté. On doit rayonner l'espoir, l'accueil, être accessible, la joie, l'amour. Donc, et ça va amener des personnes à l'Église et il va y avoir des vies transformées qui vont pouvoir continuer la mission par la suite, aller dans la mission. Donc, en tout cas, ça nous avait beaucoup inspiré pour... et la puissance du Saint-Esprit aussi, il ne faut pas l'oublier, comme je disais. On doit dépendre du Saint-Esprit. Et durant le processus de vitalité, il nous a été suggéré d'écrire une alliance relationnelle. Donc, notre alliance relationnelle. Donc, ça je l'ai dit. Non, je ne reviendrai pas. Donc, notre alliance relationnelle. Pourquoi écrire une alliance relationnelle? Eh bien, si nous aspirons à participer à la mission de Dieu, et c'est notre désir, qui est de faire des disciples, nous devrons affronter des défis, car nous serons confrontés à l'adversaire, le diable, qui n'est pas content qu'on fasse la mission, lui. Ainsi que notre propre nature humaine. Donc, le diable et notre nature humaine sont tous les deux en opposition à la volonté de Dieu. Et comme dit le proverbe, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, cette alliance relationnelle-là va nous permettre de nous rappeler, dans les périodes plus difficiles, lorsqu'on va être en conflit ou que ça va mal aller, notre engagement dans nos relations les uns avec les autres. Donc, on va le passer assez rapidement, parce que je veux m'attarder sur une seulement. Donc, la première, c'est l'accueil. Nous nous accueillerons les uns les autres tels que nous sommes, avec l'amour et la grâce de Christ, évitant les critiques destructives et une attitude de condamnation. En passant, je pense que cette alliance relationnelle-là est applicable dans toutes nos relations, que ce soit au travail, que ce soit dans nos foyers respectifs et dans notre Église aussi. Donc, l'accueil. Être accueilli comme on a été accueilli par Dieu. Humilité spirituelle, nous chercherons individuellement et collectivement à rester dépendants de l'Esprit-Saint pour agir selon ses fruits dans nos échanges. Donc, si on dépend du Saint-Esprit, ça va nous aider grandement dans nos relations. La patience et la persévérance, nous accepterons lorsque notre service ensemble pour Jésus apportera des souffrances à persévérer dans l'amour et à être patients les uns envers les autres. C'est qu'un contrat, mais par la puissance de Dieu, c'est possible. Amour, nous désirons aimer comme nous avons été aimés par Jésus en nous préoccupant du bien-être physique, émotionnel, spirituel, les uns les autres. Oui, je pense que je n'ai mis deux ensemble. Ouais. L'humilité spirituelle. Oui, je l'ai oublié, je pense. Non. Ah non, il était là tantôt, je pense. Hein? OK, donc je l'ai mis deux fois. Donc, édification. Donc, nous veillerons à ce que les paroles qui sortent de notre bouche apportent le bien, une bénédiction, et contribuent à la croissance spirituelle de nos frères et sœurs. Intégrité. Nous veillerons à vivre selon notre identité en Christ, dans l'intégrité et la transparence, en se laissant reprendre et avertir avec douceur selon la vérité de la parole de Dieu. Intégrité. Unité, collaboration. Nous mettrons nos capacités et nos efforts au service des autres membres de l'Église et travaillerons de façon complémentaire avec eux en évitant d'imposer nos objectifs personnels. Ça n'arrive jamais, ça. Oh que oui, malheureusement. Réconciliation. De même que Christ nous a réconciliés avec Dieu, nous poursuivons la restauration de nos relations lorsqu'il y a conflit. Donc, c'est tout un défi, n'est-ce pas, hein, notre alliance relationnelle, mais c'est avec Dieu qu'on peut faire ça. C'est simplement avec Dieu. Donc, je voudrais revenir sur l'accueil. Donc, nous nous accueillerons les uns les autres tels que nous sommes, avec l'amour et la grâce de Christ, évitant les critiques destructives et une attitude de condamnation. L'accueil, c'est vraiment quelque chose de pas facile, en tout cas pour moi. Et j'ai réalisé qu'il est difficile, voire impossible, d'accueillir quelqu'un si on le méprise. Et j'aimerais vous partager ce qui m'est arrivé la fin de semaine dernière. Je ne sais pas si vous en souvenez, donc, lors du panel qu'on a fait avec ensemble, j'avais raconté que je voulais être plus vulnérable en la présence de Dieu, en sa présence, en la présence de Dieu, et ne plus avoir peur de lui partager mon intimité, mon cœur. Eh bien, la semaine dernière, samedi passé, plus précisément, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas à la hauteur, incompétent. Et j'ai partagé ça avec Dieu dans mon temps de prière. Je lui ai dit que j'avais besoin de sentir sa tendresse, sentir son amour. Après ce temps de prière, on ne peut pas dire que ça allait vraiment mieux encore. Il y avait quelque chose qui s'était passé, mais pas tant que ça. Et j'ai décidé de regarder la série « Chosen ». Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent. C'est une série très excellente qui est sur Internet. Donc, ça parle de la vie de Jésus. Et c'est vraiment une... Il dépeigne Jésus vraiment humain et compatissant. En tout cas, c'est vraiment une belle représentation de Jésus-Christ. Donc, j'ai décidé donc de regarder... un épisode de la série Chosen, et c'était l'épisode où Jésus est au puits avec la Samaritaine. Et il y a une parole de Jésus dans cet épisode, ce n'est pas dans la Bible, OK, c'est pas dans la Bible, mais il dit à la Samaritaine, je me souviens plus, que « Je ne suis venu que pour toi ». Il a dit ça à la Samaritaine. Vous savez que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Et là, il dit, parce qu'il a dit qu'il était le Messie, tout ça, il dit, « Je ne suis venu que pour toi. » Et ça, là, cette parole a résonné dans mon cœur, comme si Jésus me disait personnellement, « Je suis venu pour toi. » Donc, Dieu a répondu à ma prière de sentir sa tendresse, son amour pour moi. Et par la suite, j'ai réalisé que le fait de ne pas me sentir à la hauteur, incompétent, était un mépris envers moi-même. Et si nous avons du mépris envers nous-mêmes, eh bien, nous aurons du mépris envers les autres. Et ce mépris va justement nous empêcher d'accueillir l'autre, parce qu'on va le mépriser. Et donc, j'ai demandé vraiment pardon à Dieu pour mon attitude méprisante. Et en tout cas, priez pour moi, j'ai encore du chemin à faire parce que j'ai été élevé dans ce mépris-là et tout ça. Donc, je me suis fait mépriser quand j'étais jeune. Et on apprend en copiant les autres. Donc, c'est revenu dans ma vie et le Seigneur m'a montré que le mépris, c'est quelque chose de vraiment qui peut blesser énormément parce que souvent, ça va être sous forme de moquerie. Et ça va mettre l'autre, ça va isoler les autres, et ça va lui donner le message, tu ne vaux pas la peine d'être aimé. Et c'est ça le mépris. Et j'ai réalisé que je n'avais beaucoup pour moi-même, donc, et pour les autres aussi. Donc, évidemment, toutes notre alliance relationnelle, comme j'ai dit, il y a plein de versets, je les ai enlevés parce que ça venait un petit peu lourd, mais on va en regarder quelques-uns pour l'accueil. Pour l'accueil. Donc, j'aimerais ça que vous tourniez dans Matthieu 5, 48, où je l'ai mis de toute façon, mais si pour nous qui aiment ça, suivre en même temps. Donc, Matthieu 5, 46 à 48. Ça va comme suit. Donc, Matthieu 5, 46 à 48. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Donc, c'est dans la version Sommeur, en passant. Les collecteurs d'impôts eux-mêmes ne font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. Matthieu 5, 48 à 49. Ce passage-là m'a fait penser à un livre que j'ai commencé à lire dernièrement, « Une communauté irrésistible ». L'auteur de ce livre nous dit que pour avoir une communauté qui va révéler l'Évangile, l'ingrédient, c'est que la plupart des relations qui existent dans l'Église ne proviennent que grâce à la vérité et à la puissance de l'Évangile. Il dit soit à cause de la profondeur de l'amour fraternel qu'elle cultive, ou soit parce que les amis en question n'ont pas grand-chose en commun en dehors de Christ. Et il a même dit que pour attirer les foules, il suffit de développer une communauté sur la base des similarités. C'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Donc, ceux qui sont des maniaques de la chasse vont faire un club de chasse. Ceux qui sont pour la pêche vont faire un club de pêche. Donc, il dit que c'est ainsi que fonctionne le cœur humain. Le problème, c'est que lorsque des chrétiens se rassemblent autour d'une chose autre que l'Évangile, ils créent une communauté qui existerait même si Dieu n'existait pas. Donc, souvent, on essaie d'être entouré d'une personne qui nous ressemble. Mais si on regarde l'Église ici, on est même d'autres nationalités, donc on est content que vous soyez parmi nous. Donc, ça crée une diversité. Il y a une diversité. Diversité dans notre Église, il y a des jeunes, il n'y en a pas aujourd'hui par exemple, il y en a moins aujourd'hui, mais en tout cas. Mais vous voyez, on est tous différents, on a tous des arrière-plans différents. Si ce n'était pas de Jésus-Christ, on ne serait pas ici. C'est ça qui fait notre force, c'est ça qui fait une communauté qui va révéler l'Évangile. Parce qu'on ne serait pas là si ça ne serait pas à cause de Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Et c'est quelque chose. Donc, parce que, comme il est dit, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? C'est quand on est différent, puis qu'on se frotte, puis on grandit ensemble, que l'amour. C'est là qu'on peut commencer à aimer notre prochain maintenant. N'est-ce pas? Donc, ça me fait penser à ça, ce passage-là. Un autre passage concernant l'accueil, Colossiens 3, 12 et 15. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous appartenez, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Wow! Quel beau passage, hein? La raison ici pour nous accueillir, eh bien, parce que Dieu nous a choisis. Chacun de nous, mais pas juste chacun de nous. Mon frère, ma sœur, celui qui était à votre gauche, à votre droite, en arrière, en avant. Tous les frères et sœurs de l'Église ont été choisis. Et que Dieu m'aime, mais il aime aussi mon frère, ma sœur, n'est-ce pas? Et il nous demande de revêtir, Revêtez-vous d'ardente bonté, bienveillance, humilité, douceur et de patience. Je pense que si on accomplit tout ça, là, ça devrait bien aller dans nos couples, dans notre église, dans nos relations au travail aussi. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible est honnête. Elle est réaliste. Elle ne nous berce pas des yeux en disant « Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil », parce que ça continue. Supportez-vous les uns les autres. En gardant, si on doit se supporter, c'est peut-être parce qu'on n'est pas toujours, on n'est pas toujours fin, hein, n'est-ce pas? Donc, supportez-vous les uns les autres. Et vous avez quelque chose à reprocher à quelqu'un? Eh bien, pardonnez-vous mutuellement à l'exemple de Christ. Donc, l'offense qu'un frère ou une sœur peut me faire est pas mal moins grande que mon offense que j'ai faite envers Dieu. Et pourtant, lui m'a pardonné. Ça lui a coûté cher, par exemple. Ça lui a coûté la mort de son fils à la croix. Et ensuite, il nous a demandé de revêtir l'amour qui a le lien par excellence. Car si nous aimons, eh bien, nous allons accueillir. Mais si nous n'aimons pas, on n'accueillera pas. Et Paul termine par la paix qui vient de Christ pour qu'elle dirige nos décisions. Donc, encore une fois, c'est encore avec la dépendance du Saint-Esprit qu'on peut agir, avec, faire ça. On doit dépendre de Dieu. Et le prochain passage, Colossiens 4, 5 et 6, nous dit « Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Ici, évidemment, on s'adresse plus à nos relations, ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu. Mais si on veut pratiquer ça avec ceux qui sont font pas de la famille de Dieu, bien, il faut se pratiquer. Et quel beau laboratoire pour se pratiquer que l'Église, n'est-ce pas? Donc, je saute une page. Donc, l'Église, comme je disais, est un bon endroit pour pratiquer une parole toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun, que ce soit un frère, une sœur ou quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des relations harmonieuses dans notre Église? Eh bien, je pense que notre alliance relationnelle, et ça, on a vu juste un point. Tous les autres points sont importants aussi. C'est un tout. Des fois, on est meilleur dans un que dans un autre. Donc, on est en processus, chacun de nous, à travers ça. Donc, je vais prier pour terminer, si vous voulez bien. Après ça, Richard, tu viendras pour un chant. Oui, Père Céleste, encore une fois, on veut te remercier, Seigneur, parce que nous sommes partie de ta famille, Seigneur, parce que tu nous as adoptés comme tes enfants pour faire partie d'un corps, un corps qui doit être uni les uns aux autres. Et merci, Seigneur, parce que tu travailles en chacun de nous pour qu'on puisse grandir dans l'amour, dans la compassion, et dans des relations plus saines, Seigneur. Et merci parce que tu nous as dirigés en tant qu'Église, tu nous as réveillés en nous disant que nous avions une Église de performance et on voulait passer à une Église de relations. Et tu as dirigé, Seigneur, ce parcours vitalité, Seigneur, qui fitait vraiment avec ce qu'on croyait, Seigneur, ce que tu nous avais mis à cœur. Et on voit ta direction. Merci pour cette direction que tu as donnée à ton Église, à Saint-Félicien, Seigneur. Et on veut continuer, Seigneur, à marcher en dépendance de ton Saint-Esprit, afin que tu puisses nous parler à nos cœurs, parler à nos âmes, et que tu puisses nous aider, Seigneur, à embarquer dans ta mission, Seigneur. Et on veut vraiment dépendre de ton Saint-Esprit pour faire ça. Je demande de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur, et que vraiment, Seigneur, on puisse réaliser que notre relation, premièrement, avec toi est importante, mais aussi notre relation les uns envers les autres. Que tu puisses bénir nos relations, que tu puisses, à travers ce repas du Seigneur que nous allons prendre, nous rappeler tout l'amour que tu as eu pour nous, Seigneur. Et c'est dans le précieux nom de ton Fils que je te prie. Amen.